Arrêter de rentrer à la maison et puis d'un peu méditer ce qu'on vient d'entendre, ça vaudrait presque la peine. Il y a 2 semaines maintenant, sauf erreur, le pasteur de Besançon est venu et puis a donné un message qui avait pour titre, il parlait de l'éternité. Et ça m'a un peu interpellé dans le sens où c'est vrai que les situations de notre courante dans notre vie, le brouhaha, les allées et venues ont tendance à nous centrer sur tout de suite, maintenant et puis actuellement. Et puis on perd de vue que finalement on est sur Terre en vue d'une préparation pour l'éternité. Que la vie humaine, en fait, elle est étriquée, elle est courte par rapport à l'éternité. Et quand on commence un petit peu de relativiser les choses de notre Terre, ces éléments qui nous arrivent, les difficultés, les situations, si on les met en perspective avec ce que l'éternité représente, on constate que ça mérite d'être relativisé, tout ça. Alors, je me suis amusé un peu à réfléchir, à essayer de représenter notre vie déjà. Si on prend l'échelle d'une année égale 1 cm, la situation, les assurances font des calculs sur une espérance de vie de 80 ans environ, un peu plus pour les dames, un peu moins pour les hommes, ça varie un peu suivant où, mais c'est une moyenne. Mais 80 ans, ça représente 80 cm, ça représente ça. Moi, j'en suis là. À 20 ans, on en est là. À 40 ans, ça fait la moitié. 60 ans, la retraite, c'est par là. Et on voit sur quoi on peut encore espérer pour la suite. Un jour, j'ai parlé avec un collègue, d'un autre collègue qui est arrivé à la retraite, 65 ans. Et puis ce collègue m'a fait une remarque un peu amusante, mais impressionnante. Il m'a dit « Ah oui, c'est encore un qui a son avenir derrière. » Et si on regarde, c'est vraiment vrai. 65 ans, 65 cm, 80 cm, par rapport à ce qui est passé, les jeux sont faits. Alors on pourrait se dire, bon ben voilà, la vie elle est courte, puis se lamenter, essayer d'ignorer l'échéance. Mais si on considère, si on voulait représenter une vie humaine moyenne de 80 ans par rapport à l'éternité, si on voulait représenter l'éternité par rapport à ça, imaginez 80 cm, il faudrait continuer pour arriver à un bout de l'éternité, faire le tour de la salle. Quand on aurait fait tout le tour, on sera encore longtemps par rapport à ces 80 cm, ces 80 ans, on sera encore longtemps, longtemps pas loin dans l'éternité. On pourrait faire un deuxième tour, un troisième tour, quand la salle serait complète à force de tourner, c'est encore pas suffisant pour comparer avec notre vie, avec l'éternité. Et ce qui se passe ici, sur cette terre maintenant, aujourd'hui, avec l'espace qu'on a à disposition, ça a des conséquences et ça va entraîner des conséquences pour l'éternité. Dans ce petit moment qu'on a à disposition, et la Bible ne dit même pas 80 ans, mais elle dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ça compte, et nos choix d'aujourd'hui peuvent avoir des influences et des conséquences pour l'éternité. Puis l'éternité, ça commence pas puis ça finit pas, c'est, il n'y a pas de comparaison possible. Alors sur cette terre, on est en quelque sorte en formation, on apprend à diminuer pour que lui grandisse, comme on vient de l'entendre tout à l'heure. C'est un temps de formation. Pendant ce temps de formation, bien, Dieu permet des tests, il permet des épreuves, et ces tests et ces épreuves sont là pour fortifier notre foi pour nous affermir dans l'espérance de cet avenir glorieux qui nous est promis, qui nous est préparé. Ces difficultés, ces épreuves sont nécessaires. Elles sont même souvent permises par Dieu, enfin toujours permises par Dieu. Dans 2 Timothée 2, l'apôtre Paul nous dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Les fruits, on va les recueillir dans l'éternité. Maintenant, c'est le temps des labours, c'est le temps du travail, c'est le temps de semer en vue de l'éternité, et on sème souvent dans les larmes et dans les difficultés, dans l'épreuve, dans le travail. Si on prend une comparaison peut-être plus actuelle, pourquoi est-ce que les jeunes font une formation? Pourquoi est-ce qu'ils s'astreignent à apprendre, à passer des tests, à travailler pour des épreuves, à avoir les estomacs noués en se disant « est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça suffit ?» Pourquoi? Parce qu'au bout, il y a un avenir. Il y a l'espoir, l'espérance d'être un professionnel, de pouvoir avoir sa place dans la société, d'arriver à un but. Pas mal, malheureusement, de jeunes disent « Bon, pourquoi maintenant je veux ?» On est jeune qu'une fois, il faut profiter, et puis tant pis, on verra après. Eh bien, ces gens-là n'ont pas vraiment un but dans la vie, et puis leur vie va être un peu cas tout au long de jusqu'à qu'ils se prennent vraiment en charge. On est là pour prendre nos responsabilités, mais parce qu'il y a une espérance, parce qu'il y a un avenir. On peut dire, oh, ben, ça va bien aujourd'hui, j'ai pas besoin. Alors quand on a l'impression qu'on n'a pas de besoin, alors on n'a pas non plus besoin de solution, et on ne cherche pas de solution, et on ne cherche pas la solution pour les chrétiens, pour nous les croyants, au bon endroit, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Si Dieu permet ces situations, ces tests, eh bien, il le démontre déjà dans le cas d'Ézéchias, ce roi qui avait été un bon roi, mais au moment donné, il est dit que Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Je pense que Dieu connaissait ce qui était dans le cœur d'Ézéchias, mais c'est surtout lui qui avait besoin de découvrir ce qu'il avait dans son cœur. Et on vient de voir avec ces versets, d'avoir les pensées de Jésus-Christ, d'avoir un cœur pour Jésus-Christ. Et c'est ça qui importe pour ce que Dieu veut voir, ce que Dieu veut découvrir dans nos vies. Alors, voilà, j'ai sorti ces versets parce qu'on pourrait dire, encourageons-nous, quoi, c'est pas drôle de vivre. Eh bien, on a des exemples, on a des témoins avant nous, par exemple Pierre, qui lui a été un martyr, il a été emprisonné, il a reçu des coups, il a vécu des épreuves compliquées, difficiles. Eh bien, c'est lui qui nous écrit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pierre ici nous dirige nos regards sur l'avenir, nous dirige nos regards sur cette éternité qui nous attend et qu'on attend aussi et qui va apparaître vraisemblablement sous peu. C'est la perspective d'une éternité bienheureuse, eh bien, cette perspective nous aide à considérer les épreuves, hein, même si Pierre parle d'une fournaise, donc là ça chauffe, et il nous invite à nous réjouir de pouvoir participer aux souffrances de Christ. Ce n'est pas que les souffrances de Christ sont insuffisantes pour notre salut, mais pour notre progression, eh bien, le fait d'accepter les choses, les tuiles qui nous arrivent, correspondent aussi à participer aux souffrances de Christ qui, lui, a accepté, comme on l'a tellement bien vu jusqu'à présent, aujourd'hui, qu'il s'est abaissé, qu'il s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et bien, si on peut aussi, par nos épreuves, goûter un peu de ce que le Seigneur a goûté et puis compatir avec lui, alors on peut s'en réjouir. La Pierre nous invite à nous en réjouir, ce n'est pas moi qui le dis. Paul, dans l'Épître aux Romains, le verset suivant, nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » De nouveau, Paul met en relation les souffrances du moment présent avec l'éternité, avec l'avenir, avec ce qu'est notre espérance. Et puis encore dans 2 Corinthiens, nos légères afflictions, il trouve que les afflictions sont légères. Je ne sais pas si c'est toujours votre avis. Il y a des fois où on est vraiment dans l'épreuve du feu et puis on n'a pas l'impression que c'est léger. Mais si on lève les yeux et qu'on regarde un peu à Christ, ce que lui a souffert, et le but de ces afflictions, alors elles vont diminuer. On chante ce chant-là, « Lève vers Jésus les yeux ». Et les choses du monde vont s'atténuer petit à petit. L'importance, ce qui nous touche tellement maintenant, si on le met en rapport avec, si l'étudiant disait « Ah, j'en ai marre d'étudier tous ces bouquins, et puis encore apprendre, puis de nouveau des exercices, et de nouveau des tests, et puis des épreuves », il arrête. Mais s'il regarde au diplôme qu'il va recevoir, ça l'encourage et ça le motive pour continuer. Et bien, nous aussi, dans notre vie chrétienne, si on regarde à l'avenir, si on fixe les yeux sur Jésus, et bien, ces afflictions du moment présent, elles vont perdre de leur poids et puis elles vont juste être une espèce de... J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est un peu un contrepoids, la gloire à venir est tellement importante que les souffrances du temps présent vont disparaître. D'ailleurs, quand on a mal quelque part, dès l'instant où le mal a passé, on a déjà à peu près oublié notre mal, non ? Et c'est des situations qui sont voulues, permises par Dieu. J'ai relevé une remarque de nommé Chambers, c'était un collaborateur de Spurgeon qui a écrit des pensées. Puis il écrit « Si vous passez en ce moment par une période de découragement, sachez qu'elle est nécessaire pour que Dieu puisse développer votre personnalité. » Désolé, mais c'est nécessaire de vivre une vie humaine avec ses aléas, avec ses contrariétés, parce qu'il y a un avenir, parce qu'il y a un but, et on doit développer notre foi, notre confiance dans le Seigneur doit être développée pour qu'on puisse, supporter d'être auprès de lui dans l'éternité. Alors tout ça, oui, ok, c'est bon, mais en attendant, aujourd'hui, ça fait mal, aujourd'hui, je souffre. Alors, si on peut avoir le diapo suivant, encore un peu dans la même veine, Pierre nous redit ici dans 1 Pierre 5, 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, donc le but final de notre vie, la raison d'être, de vivre aujourd'hui, c'est la gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, ça peut être plus ou moins long, mais ça reste relativement peu par rapport à l'éternité. Et bien lui-même, donc Dieu de grâce, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous perfectionnera. Ce mot perfectionner veut dire raccommoder ce qui est abîmé. Dans Matthieu 4, lorsque Jésus appelle Jacques et Jean, ils étaient en train de réparer les filets. Mais c'est un peu la même chose. Perfectionner, c'est raccommoder. c'est réparer ce qui doit être réparé. Bien, Dieu va le faire dans nos vies. Il vous affermira. C'est ça le sens de rendre libre, de nous libérer. Lorsqu'on est les trous dans le filet, ce qui manque dans nos vies est raccommodé, est réparé, on est rendu libre. Et vous fortifiera, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, rendre fort, nous rendre fort et fort au niveau de l'âme, justement, de ce qu'on a entendu, de nos pensées, de nos sentiments, de notre raisonnement aussi. Eh bien, Dieu, par ces différentes épreuves, par ces différents moments où il nous permet qu'on passe, vont nous perfectionner, vont nous affermir et nous rendre finalement inébranlables. Inébranlables comme la maison qui est bâtie sur le roc. Donc ce n'est pas pour rien. Ça, on va commencer finalement d'un peu apprécier ces épreuves parce qu'on sait qu'au bout, il y a le Seigneur. Et j'aime bien quand il y a une difficulté, quand il y a une épreuve, même des fois bénigne, de me dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut apprendre ici? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par cette épreuve? Et lorsque le Seigneur nous répond, puis qu'on découvre le sens de cette épreuve, alors honnêtement, ça valait la peine d'y passer, quoi. Le résultat, ce qu'on obtient au travers de cette épreuve, compense largement les inconvénients de l'épreuve. Et finalement, au total, la gloire éternelle, l'éternité bienheureuse, compensera sans mesure, ça ne supporte pas de comparaison les épreuves du moment d'aujourd'hui. C'est pourquoi, ayant les regards sur Jésus, ayez les regards sur Jésus, ça implique un changement. Certaines traductions disent « fixant les regards sur Jésus ». Nos regards, ils ont toujours tendance à partir du côté qui nous touche, qui nous, voilà, dans la difficulté, mais on doit redresser, corriger notre vision et fixer les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, de nouveau, là, Jésus, je ne vais pas redire ce que la Cyril vient de dire, mais le Seigneur, il allait à la croix parce qu'il savait qu'il allait obtenir une grande joie, c'est-à-dire aussi la satisfaction de nous sauver et de nous avoir auprès de lui dans l'éternité. En vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la joie de l'éternité, eh bien, nos épreuves aussi diminuent d'intensité, diminuent de nous mettre par terre. Jésus donc a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, donc, on peut considérer les frères et sœurs, leurs épreuves, puis penser que compatir, mais on peut aussi considérer Christ qui est l'exemple type, le modèle absolu des épreuves qu'il a supportées, et les épreuves. Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Le but de regarder à Jésus, eh bien, ça va nous encourager. On va puiser là du réconfort, puis se dire, si Jésus a passé par là, il est avec moi. Et puis, il a vaincu le monde, donc le monde qui est vaincu, je peux aussi le surmonter. C'est intéressant, je ne sais ni le grec, ni l'hébreu, j'ai déjà beaucoup de peine avec le français, mais en puisant ici ou là deux, trois petites choses, j'ai découvert que le mot grec pour homme, donc l'être humain, homme, c'est un être dont la face est tournée en haut. C'est beau le grec, non? Est-ce qu'on est les gens qui ont la face tournée vers le Seigneur ou bien est-ce qu'on est tourné sur nos petites affaires, sur recroquevillé sur nous-mêmes? Ce genre de considération, si tu peux nous passer l'image suivante, Ben, c'est un peu... Écoutez, c'est le verset que j'ai préparé pour mettre dans la... dans ce panneau, là, devant. Et puis, malheureusement, je viens de découvrir que le verset que j'avais mis il y a un mois, il est venu tout rabougri, il est tout moisi. Donc, c'est pas tout à fait la bonne peinture que j'ai choisie. Il faut que je remette quelque chose par-dessus. Mais bon, ce verset, il est tout préparé. Il était tout préparé. C'est dans 2 Chroniques 16 qui dit « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Ça résume bien ce que j'ai essayé de dire jusqu'à présent. C'est que Dieu nous regarde, il a les regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. J'ai trouvé que ce verset il serait intéressant sur la rue, pour les gens qui passent, parce que ce n'est pas un verset qui est accusateur, qui ne pointe pas du doigt tes pécheurs, tu vas en enfer et puis tu ne te repens pas. C'est peut-être pas par là qu'il faut commencer, mais qu'il y a auprès de Dieu un soutien possible. Toutefois, il y a une clé pour obtenir ce soutien, c'est que notre cœur soit tout entier à lui. Encore une fois, j'appuie ce que Cyril a dit ce matin. Et ce verset, je l'ai pris comme ça parce que je le connaissais, mais je suis quand même allé voir le contexte, qu'est-ce qui, pourquoi, comment, où c'est que c'est écrit. Alors, sur l'image suivante, il y a le contexte qu'on peut lire. C'est dans les chroniques, il y a un roi excellent, le roi Asa, qui est un roi qui a servi l'Éternel, qui a ramené le peuple à servir l'Éternel. Et puis, il a eu évidemment, les ennemis sont assemblés, ils l'ont attaqué, les Éthiopiens, les Libyens, une première fois, avec un million d'hommes, alors que lui avait 600 000 soldats à disposition, donc il était dans une situation d'infériorité flagrante, mais il s'est confié en l'Éternel. Il a prié l'Éternel en lui disant qu'il était confiant en lui, que de toute façon la victoire elle appartenait à l'Éternel, puis pas au grand nombre, qu'il pouvait sauver avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Et puis Dieu a intervenu, il a réagi, ils ont eu une grande victoire. Plus tard, quelques années après, c'est plus les Éthiopiens, les Libyens, les gens du monde, de l'extérieur qui sont venus. C'est la deuxième partie du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était séparé. Et puis, la partie opposée a attaqué ce roi, Asa. Et puis là, Asa s'est un peu trompé. Plutôt que de s'attendre à l'Éternel, il a rassemblé les fonds dont il disposait. Il les a envoyés à la limite son ennemi pour lui demander d'attaquer ses frères qui l'attaquent, c'est un peu compliqué hein, pour soudoyer l'autre armée pour que ces Israélites qui l'attaquaient ici, qui attaquaient Juda abandonnent quoi, changent de point et assez d'ennui pour reculer avec leurs armées. Et ça a marché. Mais je me suis dit, c'est un peu intéressant. Hein. Quand c'est le monde ou Satan qui nous attaque, on peut encore trouver la bonne solution, puis s'adresser à Dieu pour lui demander l'aide. Quand c'est nos frères et sœurs, ici c'était l'autre partie d'Israël, c'était les mêmes qu'eux, ils auraient dû faire partie, qui attaquent, on a peut-être tendance à trouver des solutions amadouées pour s'en sortir plutôt que de totalement s'appuyer sur l'Éternel. Et ici, le voyant Hanani, le prophète qui est venu, a trouvé Asa et lui a expliqué l'erreur qu'il avait faite. Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. » Et puis voilà ce verset, c'est une promesse, mais ici elle est un petit peu assortie d'une condition. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » L'Éternel veut soutenir, quand on a besoin de soutien, c'est que ça s'écroule, c'est ouais, ça ne tient plus tout seul. Alors Dieu attend qu'on soit dans cette situation, il regarde par toute la terre, puis il cherche des gens qui sont prêts à recevoir son soutien, mais la clé c'est de que notre cœur soit tout entier à lui. Intéressant, non? Et il conclut, à cause de ces deux situations, une fois où il s'est tourné vers l'Éternel, appelé à son aide, et l'autre fois il s'est débrouillé tout seul, « Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès maintenant tu auras des guerres. » C'est une promesse, c'est une super promesse, moi j'aime beaucoup ce verset, penser que Dieu est attentif, il regarde si on a des pour nous soutenir, et moyennant que notre cœur soit autorisé à lui. Et effectivement, on le sait par d'autres versets, par exemple dans Jérémie, que Dieu est attentif aux actions des hommes. « Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants, des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies. » Donc, oui, il est prêt à nous soutenir, pour autant qu'on ait la bonne attitude. Alors, un peu en conclusion, on arrive, mais bon, on boucle la boucle, si tu nous mets le dernier. Voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je pense qu'après ce qu'on a entendu aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. C'est du cœur que viennent les sources de la vie, c'est là que tout va se jouer. Et notre cœur, ben, c'est aussi nos pensées, c'est aussi nos sentiments, et c'est aussi notre raisonnement, c'est notre âme. Et suivant ce qu'on en fait, eh bien, si on ne veille pas sur notre cœur, eh bien, comme on l'a entendu, il va partir dans les décors, il va être influencé par les médias, par l'air du temps, par nos sentiments, et puis notre cœur ne sera pas tout entier à lui, on ne pourra pas bénéficier du soutien de l'Éternel. Si c'est le cas, eh bien, on est appelé dans ce dernier verset que j'aime beaucoup. Il est beau de louer l'Éternel, on l'a fait, pas seulement le dimanche, de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Le matin, c'est le début d'une histoire, c'est le début d'une journée, c'est le début d'une situation. Si avant d'entrer dans le feu de l'action, on peut louer l'Éternel, célébrer sa bonté, compter sur sa parole, sur ce qu'il a promis, eh bien, à la fin de l'histoire, la nuit, on pourra aussi louer et annoncer sa fidélité. Après l'épreuve, pouvoir dire « Dieu a été fidèle avec moi ». C'est vrai, j'ai passé par là, c'est vrai, j'ai eu des difficultés, mais le Seigneur m'a soutenu. Et puis, ça, c'est un véritable témoignage pour encourager les frères et sœurs qui ne sont pas encore sortis du tunnel, et pour s'encourager soi-même, et puis c'est aussi un témoignage vrai vis-à-vis des incrédules. Alors si aujourd'hui on peut retenir ces quatre points, l'éternité, qui est une réalité future, mais qui est une réalité, qui va nous aider à détourner les regards de nos épreuves. Si le deuxième point, on sait que les épreuves sont nécessaires pour notre formation, pour notre développement, pour notre sanctification, mais que dans ces épreuves, le soutien de Dieu nous est promis, alors il nous reste à travailler sur notre cœur. Et c'est le point, disons, qui est vraiment sorti aujourd'hui. C'est assez étonnant. Mais... Oui, quatre points. L'éternité, les épreuves qui sont nécessaires, le soutien de Dieu, mais que je veille sur mon cœur.